Avertissement numéro 13 du 23 juillet 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il sera question de l'application de fongicides dans le maïs, du ver gris occidental des haricots, de la pourriture asclérote, du puceron du soya, de l'importance de ne pas retarder la récolte des céréales et de la cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne. Application de fongicides dans la culture du maïs grain et du maïs en silage, la plupart du temps non rentable. Parmi les maladies du maïs grain et en silage, ce sont les maladies des épis qui sont les plus préoccupantes puisqu'elles peuvent produire des toxines dommageables pour la santé humaine et animale. C'est lors des premiers jours suivant la sortie des soies que le maïs est le plus sensible à ce type d'infection. Aussi, les blessures causées par des insectes comme le ver gris occidental des haricots, plus tard en saison, peuvent créer une porte d'entrée provoquant une infection plus tardive. L'analyse réalisée par Luc Belzil et Gilles Tremblay, publiée en 2016, a mis en lumière qu'il y avait peu de chances de rencontrer le seuil de rentabilité avec l'application de fongicides dans le maïs grain. Parmi les 13 essais analysés, même si des gains de rendement ont été obtenus dans la majorité des cas suite à l'application de fongicides, seulement 3 présentaient un bénéfice économique, alors que des pertes financières étaient rencontrées dans les 10 autres essais. En actualisant le prix du maïs et ceux des fongicides qui ont été utilisés dans ces différents essais, on obtient la même proportion de cas rentables. Concernant le maïs en silage, la rentabilité des traitements fongicides, l'impact positif sur la qualité de l'ensilage et sur la performance des vaches laitières reste à être démontré. La décision de traiter dépendra donc de l'accumulation de facteurs de risque, en particulier l'historique de maladie, la présence de résidus de maïs ou de céréales et la sensibilité de l'hybride. Si le champ a une problématique de ver gris occidental des haricots, il est préférable d'intervenir à l'aide d'un insecticide au bon moment lorsque le seuil d'intervention est atteint et que la majorité des œufs sont éclos, plutôt que de compter sur l'application de fongicides qui aura un effet de répression des champignons temporaires qui ne protégera pas contre une infection favorisée par des dommages causés par les larves plus tard en saison. Pour s'assurer qu'un traitement foliaire, qu'il soit insecticide ou fongicide, soit efficace, l'application doit être faite au bon moment, à la bonne dose et dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec les buses appropriées, le bon volume d'eau et la pression adéquate. Malgré tout, un traitement réalisé dans de bonnes conditions ne garantit pas que la récolte sera exempte de moisissures. En effet, une infection pourrait survenir plus tard en saison. Également, des moisissures peuvent se développer lorsque le maïs est laissé trop longtemps au champ après sa maturité ou pendant la période d'entreposage. La fiche technique « Maladies, mycotoxines, fongicides appliqués au champ dans le maïs grain et le maïs en silage, que savons-nous? » contient plusieurs informations sur les maladies du maïs, le dépistage, les bonnes pratiques de prévention et d'application de fongicides, la rentabilité des traitements et les autres considérations entourant la gestion des moisissures et des mycotoxines. Ver gris occidental des haricots, importance de dépister et d'atteindre le seuil avant d'intervenir. Les captures de papillons de ver gris occidental des haricots, aussi appelés VGOH, sont en augmentation, mais des hausses plus importantes de captures d'adultes sont attendues dans les prochaines semaines. Des premières masses d'œufs ont été aperçues dans certains champs. Sur les 28 champs dépistés par le RAP, des œufs sont présents dans 10 d'entre eux. Toutefois, les dépistages réalisés jusqu'à maintenant montrent que le nombre de masses d'œufs pondues est encore faible, sauf en Outaouais où les pourcentages des plants affectés dans 3 champs sont de 2, 3 et 10%. Seuls 1% des plants sont affectés dans les 7 autres champs, situés en Montérégie-Ouest pour la plupart. Le seuil économique d'intervention utilisé au Québec est le même qu'en Ontario. Dans le maïs grain, ce seuil est de 5% de plants présentant des masses d'œufs ou de jeunes larves. Le seuil est cumulatif d'un dépistage à l'autre. Il convient aussi de tenir compte de la présence des ennemis naturels qui peuvent s'alimenter des œufs de VGOH. Un traitement insecticide est justifié seulement si le seuil est atteint. Appliquer un insecticide trop tôt dans la saison pourrait s'avérer inefficace pour protéger le maïs au cours de la période à risque. certains produits, comme Coragène et Delegate, ont un effet résiduel dit systémique local, c'est-à-dire qu'ils agiront sur les larves lorsque ces dernières ingèrent du pollen ou des parties de soie qui ont été en contact avec le produit. Si l'insecticide est appliqué trop tôt, les larves issues de nouvelles masses d'œufs pourraient s'alimenter sur des grains de pollen et soie sortis après le traitement. De plus, l'effet de protection de l'insecticide sur les parties de la plante touchées par le produit est efficace maximum 2 semaines après le traitement, alors que des masses d'œufs peuvent être pondues sur une période de 3 à 4 semaines. Il est à noter que les champs présentant une croissance inégale du maïs sont plus à risque d'attirer les papillons sur une période prolongée. Dans le cas où un traitement fongicide est envisagé, il pourrait être tentant d'appliquer un insecticide en même temps. Mais si l'insecticide est utilisé alors qu'aucune masse d'œufs n'est présente dans le champ ou que le seuil n'est pas atteint, le traitement n'aura pas l'effet escompté. En contrôlant les larves au moment opportun, on limite les risques de dommages de VGOH sur les épis et on réduit par la même occasion le risque d'infection par des maladies comme la fusariose liées aux dommages causés par les larves. Dans l'avertissement, vous avez le lien pour accéder à tous les produits homologués au Québec. Et pour plus de détails sur la méthode de dépistage, on vous réfère à l'avertissement numéro 12 du 16 juillet 2021. Pourriture à sclérote dans le soya, surveillez les champs à risque et le stade de la culture. Le dépistage effectué en début de semaine a permis d'observer la germination des sclérotes à plusieurs sites au Québec. La germination de sclérotes et le développement d'apothécies ont été observés dans 13 des 32 sites suivis récemment. Les conditions météorologiques des derniers jours et celles à venir ont été et seront favorables à la germination des sclérotes, au développement d'apothécies et à l'infection. Le sol demeure aussi plus humide. Des conditions météorologiques favorables à la maladie ne signifient pas que tous les champs de soya bénéficieraient d'un traitement fongicide. Par exemple, il serait surprenant qu'un champ n'ayant aucun historique de pourriture à sclérote et ensemencé avec un cultivar tolérant soit affecté par la maladie. Une appréciation du risque doit être faite pour chaque champ afin de s'assurer qu'un traitement soit requis. Pour connaître les différents facteurs de risque, consultez l'avertissement numéro 11 du 9 juillet 2021. Si un champ est jugé à risque, il est important de vérifier le stade de la culture. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder à un document illustré pour vous aider à déterminer le stade de la culture dans le soya. L'infection se fait principalement à la floraison, c'est-à-dire entre les stades R1 et R3, par la contamination des fleurs en sénescence par les spores du champignon. C'est pendant que la culture traverse ces stades de croissance que l'impact de l'infection est le plus important. Dans certains champs où des ressemis ont dû être réalisés, une variation importante des stades de développement des plants prolonge le risque d'infection. Le fongicide devrait être appliqué avant que les plants de soya n'atteignent le stade R4, à partir duquel il y a peu de chances qu'un traitement apporte un avantage économique. Pour les champs qui étaient à faible risque il y a 2 semaines et pour lesquels le risque est maintenant élevé, il n'y a pas de regret à avoir si aucun traitement n'a été effectué au stade R1. Rappelons que la protection apportée par un fongicide s'estompe 1 à 2 semaines après l'application et que le fongicide n'a pas d'impact sur la viabilité ou la germination des sclérotes présents dans le sol. Ainsi, pendant le stade R1 à R3, lorsque la décision d'appliquer un fongicide est prise, le traitement devrait être réalisé le plus vite possible plutôt que de se coller sur un calendrier de 2 applications à R1 puis à R3. Attention, s'il y a un problème de pucerons dans le champ, un traitement fongicide pourrait empirer la situation en éliminant les champignons qui s'attaquent à ce ravageur. Dans l'avertissement, vous trouverez un lien pour accéder à la liste des fongicides homologués et à leur indice de risque pour la santé humaine et l'environnement. Population de pucerons du soya élevée dans plusieurs régions. Les populations de pucerons du soya des champs suivis par le RAP Grand Culture sont en augmentation dans toutes les régions, notamment en Estrie et en Capitale-Nationale, où les populations étaient plutôt faibles en début de semaine dernière. Le seuil d'alerte, qui est une moyenne de 250 pucerons par plant, a été atteint dans 22 des 67 champs dépistés par le RAP. La densité de pucerons par plant est variable d'un champ à l'autre et la densité maximale observée jusqu'à présent est de 1391 pucerons par plant à Rivière-Baudette en Montérégie. Le dépistage des champs de soya est recommandé dans la plupart des régions, soit Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Capitale-Nationale, Estrie et Centre du Québec. La plupart des champs de soya sont encore à un stade de développement critique face à ce ravageur. Certains cultivars tolèrent mieux la présence de pucerons que d'autres. C'est une des raisons pouvant expliquer la grande variabilité entre les champs d'une même région, d'où l'importance de dépister chaque champ. Rappelons que le seuil de 250 pucerons par plant en moyenne n'est pas un seuil d'intervention. Il indique qu'il faut suivre les champs de près et tenir compte de plusieurs facteurs avant d'intervenir. Outre la quantité de pucerons par plant, le stade de croissance du soya, le niveau de stress de la culture et la présence d'ennemis naturels sont des éléments importants à prendre en compte pour juger de la pertinence d'un traitement. Pour en savoir plus sur la stratégie d'intervention recommandée au Québec contre le puceron du soya, consultez l'avertissement numéro 11 du 9 juillet 2021. Notez que dans l'avertissement, vous avez également un tableau de résultats. Céréales, ne retardez pas la récolte afin de préserver la qualité des graines. Dès l'atteinte de la maturité et du pourcentage d'humidité adéquat, il est important de rapidement récolter les céréales afin de préserver la qualité des graines. La maturité complète est atteinte au stade 89-90 de l'échelle ZADOX. À ce stade, le grain est dur et difficile à enfoncer avec l'ongle. La récolte des céréales devrait être effectuée à des teneurs en eau du grain entre 14 et 18. À des humidités plus élevées, il est possible de récolter grâce à la technique d'endainage et ce jusqu'à 24. Une récolte faite sans tarder permet d'éviter les problèmes suivants. Augmentation des risques de verse. La verse des céréales entraîne plusieurs inconvénients, dont la difficulté et le ralentissement de la récolte et la diminution de qualité des grains. Risque de développement de mycotoxines dans les grains. Même si les conditions ont été défavorables à l'infection causant la fusariose ou la brûlure de l'épi, de faibles niveaux d'infection peuvent être des foyers de développement des champignons et ainsi augmenter les teneurs en mycotoxines dans les grains. C'est particulièrement le cas lorsque la verse est présente. Réduction de la qualité des grains. Le contenu et la qualité en protéines et en amidons peuvent réduire considérablement si les grains sont laissés trop longtemps au champ. La qualité panifiable des blés est influencée par les conditions lumière, humidité, oxygène, température, favorisant la germination sur épi. Certaines variétés de blé ou cultivars sont plus sensibles à la germination sur épi. Avant même que ce soit visible sur les grains, lorsque le processus de germination est commencé, la qualité boulangère en est affectée. L'orge de brasserie est aussi impactée lorsque ce processus est déclenché chez la plante. Perte de grains au champ par égrenage. Il y a des différences variétales, mais généralement, des épis trop matures sont sujets à l'égrenage, c'est-à-dire que les plants relâchent une partie de leurs graines au champ. Au stade ZADOL 93, le risque de perte de grains en milieu de journée est élevé. Noir des céréales ou fumagine. Maladie qui peut se former sur les épis et la paille lorsqu'une culture de céréales est laissée trop longtemps au champ. Ce phénomène est causé par les différentes espèces de champignons qui colonisent les tissus âgés. D'autres conditions déterminantes pour préserver la récolte sont la ventilation ou le séchage des grains et les conditions d'entreposage. Cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne, état de la situation. Les populations de cicadelles de la pomme de terre dans les luzernières suivies par le RAP Grande Culture ont atteint les seuils économiques d'intervention dans 3 des 13 sites dépistés cette semaine. Ces champs se situent à Sainte-Anicette et à Saint-Alexandre en Montérégie-Ouest et à Stansted-Est en Estrie. Dans ce dernier champ, qui a récemment été fauché, le nombre de nymphes capturées était plus important que celui des adultes, laissant présager une recrudescence dans cette luzernière. Lors du dépistage, beaucoup de nymphes peuvent rester collées aux parois du filet. Ces nymphes doivent être dénombrées pour déterminer si le champ a atteint le seuil d'intervention. La vigilance demeure de mise en Montérégie-Ouest, en Estrie et dans la Naudière, où les populations dans les deux champs suivis par le RAP n'ont pas atteint le seuil d'intervention, mais s'en approchent. Pour en savoir plus sur le ravageur, veuillez vous référer à l'avertissement numéro 10 du 2 juillet 2021. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.